Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous, en nous, ici. Pour Seigneur, dans la poussière, nous t'adorons, louons. La puissance de ta grâce. Toi, l'ami fidèle de nos âmes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, seul Seigneur Jésus. Que tout ce qui respire entonne ce cantique. Gloire seul à Jésus. Oui, à Jésus. À Jésus seul. C'est notre désir à tous et notre prière encore cet après-midi. Comme la terre desséchée a besoin de la pluie, c'est ainsi que nous, en tant que son peuple, nous avons besoin de la pluie, de la bénédiction. Et je crois que jusqu'à 16 heures, il l'a fait. Il nous a toujours bénis, particulièrement ce matin. Il nous a richement bénis et nous sommes très reconnaissants à cela, pour cela. Et il le fera encore cet après-midi. Sommes-nous tous venus dans cette foi? Ne laissez aucun doute prendre votre cœur, mais nous voulons tous croire et faire confiance et avoir la confiance et l'espérance vivante que Dieu accordera plus que ce qu'il a, que nous puissions, plus que ce que nous pouvons nous attendre, au-delà de nos pensées. Nous voulons l'adorer et je voudrais pour cela lire Psaume 103. Levons-nous pour la lecture. David ici dit, et nous voulons aussi le dire avec lui, ses paroles. Mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, comme l'Éternel. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Jusqu'à la fin du verset 5, nous voulons ensemble adorer. Dieu fidèle, nous voulons aussi cet après-midi de nouveau t'apporter l'honneur et la louange et l'adoration. Car tu as entendu, Seigneur, nos cœurs désirent la pluie qui vient d'en haut et la bénédiction qui vient de toi. Car celui que tu bénis, il est béni, Seigneur. Et nous t'adorons et te demandons, Seigneur, que tu puisses continuer à être avec ton peuple. Tu sais ce dont nos cœurs ont besoin et désirent. Tu connais nos pensées à tous, Seigneur, que nos pensées soient fixées. Sois tourné vers toi et que nous puissions t'apporter la louange et te dire comme David a dit, loue mon âme que mon âme loue l'Éternel et que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, tu nous as prouvé que du bien. Tu nous as fait que du bien. Nous te sommes tellement reconnaissants pour cela et nous voulons pour cela louer ton nom. Bénis ton peuple, tous ceux qui sont venus et tous ceux qui ne pouvaient pas venir, Seigneur. Bénis à cause de ton nom, bénis aussi notre frère qui apporte ta parole, que tu peux t'accorder ta grâce pour parler et pour écouter. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement, tout est possible, car Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible car Jésus est là. Père céleste, ensemble nous te demandons ta bénédiction, ta parole et la conduite de ton Saint-Esprit et ta présence. Ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Accorde-nous encore aujourd'hui notre pain quotidien. Nourris-nous avec ta parole. Accorde-nous la manne cachée. Ô Seigneur, nous te remercions car tu as fait de grandes choses. Je te remercie pour les témoignages que je viens d'entendre de, concernant ce que tu as fait. Nous te disons merci. Je te remercie. Nous attendons encore aujourd'hui encore des grandes choses de ta part et nous te remercions de ce que tu es capable d'accorder encore plus au-delà de ce que nous pouvons penser, demander et croire. Viens à notre secours. Fais-le maintenant, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, tourner nos regards vers toi, sur toi, fixer nos regards sur toi, qui suscite la foi et la rend parfaite et la mène à la perfection. Celui qui regarde à toi ne pourra jamais être confus. Tu es fidèle, même quand nous sommes infidèles, tu restes fidèle, car tu ne peux pas te renier toi-même. Nous aussi, tes enfants, tu ne peux pas nous renier. Seigneur, tu es Père au-dessus de tout ce qui s'appelle enfant. Sur tous tes enfants. Et nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Loué et exalté soit ton nom, Seigneur. Tu vois mon état corporel faible et affaibli. Et épuisé. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant et ta parole a encore aujourd'hui la même puissance. Que tu puisses, Seigneur, mettre ton esprit dans ta parole et accorder une effusion puissante de ton esprit sur nous tous. Nous te remettons cette réunion entre tes mains et la plaçons sous ton sang, toi, agneau de Dieu, et te demandons la conduite de ton Saint-Esprit. Toute la distraction, toutes les difficultés, tout ce qui voudrait nous retenir, toutes les propres pensées et réflexions, que tu puisses, Seigneur, recevoir ce qui te revient de plein droit. Nous te remercions pour cela, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Aussi cet après-midi, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous fraternellement dans le nom du Seigneur, dans le précieux nom du Seigneur. Parfois j'ai l'impression que mes frères devraient venir devant. Je l'ai déjà dit à Frère Rousse, ou bien je lui ai même demandé quand est-ce que tu viendrais aussi devant. Et je le souhaiterais vraiment de tout mon cœur que le Seigneur utilise nos frères, les revêt et les utilise puissamment. Car pour Dieu, tout ce sont possibles. Le Seigneur a d'abord eu 12 et ensuite 70 et toujours plus qu'il a appelé, qu'il a accordé son pouvoir et qu'il a envoyé. Il est encore aujourd'hui le même. Il pouvait même parmi ces sept homme chargé de servir à table. Il pouvait venir et d'une manière particulière revêtir deux, c'est-à-dire le Étienne et Philippe. Et il les a tant bénis richement qu'il a même écrit, et nous sommes reconnaissants, le témoignage de ces deux hommes parmi les sept. Il prend qui il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut faire, si seulement nous pouvons nous tenir à sa disposition. Dans ma prière, je l'ai exprimé déjà, que je suis reconnaissant pour tous les témoignages que nous recevons en passant comme ça. Je me suis particulièrement réjoui alors que notre frère de Wolfsburg me disait, « Frère Frank, nous sommes pour la deuxième fois maintenant ici, mais alors que pour la première fois, il n'y a pas longtemps, nous étions ici, le Seigneur m'a touché et m'a guéri d'une maladie qui avait duré 5 ans, qui était très grave. Subitement, il m'a guéri, instantanément. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et il y a des témoignages glorieux de ce que Dieu a fait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a différentes sortes de différentes manières que Dieu peut utiliser, parfois par l'imposition des mains, et ça peut parfois être comme ça qu'il envoie sa parole pour nous guérir et nous guérir pendant que dans la foi nous sommes sous l'écoute de sa parole. Et alors, aucun cours particulier est nécessaire. Nous avons déjà la relation avec Dieu et à Dieu et recevons ce qu'il nous a promis. Quoi que ce soit par l'imposition des mains ou bien par l'onction de l'huile, avec l'onction de l'huile, ou bien alors quand nous sommes assis sur le coup de la parole dans la foi, nous pouvons expérimenter et recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. Ça, nous avons entendu de Frère Branham. Dieu agit toujours selon notre foi. S'il y a des gens qui sont là, qui en eux ont, se sont déjà dit ou bien ont décidé, quand on m'imposera les mains et qu'on priera pour moi, je serai guéri. Je serai guéri. Alors cela aura lieu exactement tel que, parce que c'est comme ça qu'ils croient. Ce qui arrive, arrive toujours selon notre foi. Si quelqu'un a une autre conviction que je serai guéri et qui se dit je serai guéri quand les frères vont me oindre d'huile, alors nous pouvons essayer des centaines d'autres choses, rien n'aura lieu. Rien ne se passera. Seulement quand on fera ce qui est en accord avec la conviction et la foi de la personne. C'est ainsi que Dieu agit. Ces choses sont liées, sont placées sur le fondement de la foi de la personne. Et si quelqu'un croit, par exemple, que si le frère prie à voix basse, il n'y a pas de puissance et je ne serai pas guéri. Si quelqu'un pense comme ça, mais si le frère crie en priant, alors la puissance est là et alors je serai guéri. Alors c'est à 100% comme ça. Si vous venez et que dans votre cœur, vous dites, si le frère prie à voix basse, alors il n'y a pas de puissance de Dieu là, alors je ne serai pas guéri. Alors vous ne serez pas non plus guéri. C'est ainsi. Nous devons comprendre ça. Regardez même dans les jours de Paul. Là, ça se passait sans voix basse ou bien avec des cris. Il croyait que si on prend seulement ces mouchoirs avec lesquels il s'est essuyé la sueur, qu'on les prend et qu'on impose les mains aux malades, ils seront guéris. Et est-ce que cela avait lieu ou pas? Cela avait lieu. Ils étaient guéris. Pierre arrive à Jérusalem. Les gens avaient entendu que Dieu l'avait puissamment utilisé et béni. Ils ne pensaient même pas à l'onction avec de l'huile ou bien avec, qu'il leur impose les mains ou bien à crier ou bien à prier à voix basse. Non, ils n'avaient qu'une seule chose dans leur pensée. Quand cet homme va venir, le soleil brille. Si son ombre passe là et qu'on étale, on aligne les malades et que son ombre tombe, passe, vient et couvre. Et chaque malade sera guéri. Cela avait lieu ou pas? Cela avait lieu. Qui veut conseiller Dieu? Qui veut se tenir à côté de lui et lui dire, Seigneur, peut-être que tu me permettrais de te dire comment tu devrais guérir les gens. Non, notre Dieu guérit, agit de manière variée et personne ne sait comment est-ce qu'il le fera aujourd'hui. Comment est-ce qu'il le fera? Mais il y a une chose que nous savons, c'est qu'aujourd'hui encore, il fera de grandes choses. Loué et exalté soit son Saint-Nom. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises mon voyage en Afrique en décembre qui m'a donné un nouvel élan incroyable et qui signifie peut-être autant que n'importe quel voyage en exactement 20 ans de ministère missionnaire international. Dieu a simplement fait des choses merveilleuses et des grandes choses. Pas seulement que des milliers vinrent pour écouter la parole, mais c'était aussi une percée pour la vérité. C'était un triomphe de notre Dieu, pour notre Dieu. Et pour cela, je suis très reconnaissant. Vous savez, quoique je suis épuisé, demain je dois être à Zurich, après-demain ici, et mardi à Londres, je ne pouvais plus annulé, je devais accepter, je voulais essayer de remettre à plus tard. J'ai encore une fois appelé le frère, et le frère, à l'autre bout du fil, me disait, c'est pas possible, tu dois venir. Et je lui ai dit, mais, alors que je disais, mais je ne peux plus. Il m'a dit, mais, à peu près ainsi, mais t'as pas besoin de venir à pied, tu prendras un vol, tu peux te reposer en chemin, en voyage. C'est ainsi. Et là, il n'y a plus d'excuses. Alors, on doit se mettre en voyage, on doit se mettre en chemin. Que notre Dieu soit remercié pour la faim qu'il l'envoie parmi son peuple. Et nous voulons, n'est-ce pas, racheter le temps. C'est un temps précieux, un temps mauvais, mais un bon temps, un temps sérieux, un temps joyeux, vous savez ce que je veux dire? Tout, n'est-ce pas, se déroule parallèlement. Mais ce qui est important, l'important c'est qu'il ne soit pas mélangé, que les choses ne soient pas mélangées. Loué soit notre Dieu, remercié soit-il, comme c'est merveilleux de ce que nous pouvons être détendus, ainsi réunis dans la présence de Dieu. Certains qui sont proches de moi, avec qui parfois je parle, me demandent, mais comment est-ce que frère Branham était en tant qu'homme? Alors je leur dis comment est-ce que je leur raconte plusieurs choses. Ils pensaient, mais alors ils me disent, quoi? Ça a vraiment été ainsi? Oui. Il était un homme plein d'humour. Je ne vais pas être capable d'atteindre cet humour. Je n'en ai même pas. Mais lui, peut-être qu'il en avait trop. Il était un homme de Dieu joyeux. Mais il était aussi bien un prophète sérieux qui a apporté la parole sans tenir compte de ce qu'il perdrait. Mais de la même manière, il n'était pas un fanatique. Il pouvait parler dans n'importe quelle chair, monter à n'importe quelle chair. Avec esprit, j'ai publié, ou bien alors est-ce que je ne l'ai pas encore publié, cette photo où il parlait avec le col relevé, retourné dans la grande église en Inde. Dans cette même église, j'ai également pris la parole. Et je vous dis qu'ils m'ont emmené dans la sacristie et ont pris la robe et le col tourné et me l'ont mis dans les mains. Et j'ai dit, attendez une minute, laissez-moi tranquille, laissez-moi seul un moment. Et quand ils sont sortis, je me suis dit, c'est pas possible que je porte ça. Et j'ai raccroché au porte-manteau et j'ai attendu le bon moment où je devais être appelé pour parler. Et quand on m'a appelé, je suis sorti comme j'étais entré, sans robe. Et Dieu a quand même béni et ils m'ont demandé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis la robe? Alors je leur ai dit, mais elle ne m'a pas convenu. Et j'avais dit la vérité. Quand il me l'avait donné, je l'avais juste tenu devant moi, comme ça. Et je disais, mais elle ne me va pas du tout. Je n'ai même pas besoin de la mettre, elle ne me va pas du tout. Et c'était vrai. Non, ça ne m'allait pas du tout. Je n'ai pas eu à la mettre. Mais le frère Branham était un peu plus souple. Il pensait d'avant en arrière, les gens sont là maintenant et je veux être une bénédiction pour eux. C'est merveilleux. Un Paul qui était une bénédiction pour les Romains, il était pour les Romains un Romain et pour les Grecs un Grec. Il savait exactement ce qu'il avait apprêché alors qu'il était à Athènes à l'Aréopage. Très exactement, il savait exactement ce qu'il devait annoncer. Il pouvait leur dire ici, il disait, j'ai découvert ici un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Et déjà là, il avait son sujet entre la main. Et il a dit, ce Dieu inconnu, je le connais. Il s'est révélé à moi. C'est celui que j'annonce, c'est celui que je vous annonce. Et les gens ont regardé tous. Cette inscription gravée dans la pierre, il s'est inspiré de cette inscription et c'est venu pour lui toute une prédication. Vous voyez, est-ce que vous comprenez cela? Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu peuvent s'ajuster à chaque situation. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit, le Seigneur m'a parlé et il marche avec la tête tendue, le cou raide, comme un orgueilleux et il ne sait même pas où Dieu habite et comment est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il habite. Où est-ce qu'il habite? Un homme à qui Dieu a parlé, il reste l'homme le plus normal et le plus sobre qui existe ici sur terre. Un homme à qui le Seigneur a parlé. Croyez-vous cela tous? Très certainement. Il y en a qui s'étonnent même de ce que frère Branham allait chasser. Ils disent, je peux tout comprendre, mais qu'il allait chasser. Mais laissez-le aller chasser. Est-ce que vous pouvez comprendre que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles? Oh, cela nous reviendrait tous, n'est-ce pas? Nous aurons mal à l'estomac. Et vous pouvez comprendre qu'il était vêtu de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et voilà, il a apparu dans le désert. Les moqueurs aurait pu dire, regardez ce chameau. Mais ceux qui étaient élus de Dieu, ils n'ont pas regardé à l'extérieur. Leur cœur était accordé. Dieu les avait appelés. Ils n'ont pas regardé à comment est-ce que cet homme apparaissait ou bien à quelle apparence il avait. Et en fait, la peau de chameau l'a protégé du froid et du chaud en même temps. Et il pouvait aller son chemin. Dieu fait des choses de manière extraordinaire. Il prend des hommes qui parfois, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils doivent le faire. Et malgré tout, le Seigneur les utilise tel qu'il s'est proposé de le faire. Nous voulons faire confiance au Seigneur qu'avec nous aussi, il atteindra le but. Il atteindra son but et qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir, pour nous corriger, nous ramener, nous révéler sa volonté et dans ces jours, parler avec nous. Il y a deux passages que je voudrais encore lire de la prédication de frère Branham, donc de l'anglais en allemand, et ensuite aussi plusieurs écritures. Comme le Seigneur nous conduira, cet après-midi nous avons un service de baptême biblique, et ce soir nous avons le supplice du Seigneur biblique, et le lavage des pieds biblique, et tout ce qui peut être encore biblique. Mais ce qui nous qui depuis longtemps, ou bien alors qui souvent ont entendu ces choses, c'est peut-être pour tous ceux qui sont nouveaux pas naturel. C'est peut-être que nous devons nous mettre à la place de ceux qui sont là pour la première fois ici. Naturel, donc ils n'ont pas, c'est des choses qui ne sont pas habituelles. Donc ils diront même, oh, mais ce sont des gens tout à fait normaux. Ils sont hospitaliers et le contact avec eux est agréable. Mais il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas suivre. Et je le dis maintenant avec esprit. Celui qui lit à la première page du livre de chant de l'église évangéliste, ce que Luther a dit, ou bien a dit spécialement concernant ceux qui se laissaient baptiser, c'est-à-dire par immersion, comment est-ce qu'il les a désignés comme les rebaptisés, et comment est-ce qu'il a désigné ceux qui se laissaient rebaptiser? Alors, il aurait peut-être peur d'entendre ici qu'il y a des gens qui se rebaptisent. Luther a dit, « Maudits sont ceux qui se laissent rebaptiser. » C'est écrit à la première page des livres de cantiques de l'Église évangélique. Maintenant, mettez-vous à la place d'un homme qui n'a rien entendu d'autre que ça et qui peut-être... Pendant la Pâque et la Pentecôte et peut-être la Noël et peut-être éventuellement une fois ou deux fois entre-temps, a chanté dans ce livre de cantique de ce grand homme de Dieu et qu'il avait entre ses mains et qu'il lit encore à la première page, maudit tous ceux qui se refont rebaptiser. Tous ceux qui se font rebaptiser. Cela va même, ça pénètre jusqu'à dans les eaux et même quand on entend, oh, oh, ici, il rebaptise encore quelqu'un qui se fait rebaptiser. Oh, oh. Alors, le cœur de cette telle personne bat, n'est-ce pas? Mais ici, il ne s'agit pas de ce que Martin Luther, John Wesley, William Booth, ou bien Russell, ou bien tous ces hommes, ou bien Ellen White, ou bien tous ces hommes, il ne s'agit pas de ce qu'ils ont dit. Ici, il s'agit tout simplement de comprendre ce que Dieu, dans sa parole, nous a dit et nous a ordonné. Et ce qui, dans la Sainte Écriture, en tant que vérité confirmée, nous a été légué. Et ça, je vous le dis, pendant que les hommes de Dieu, si les hommes de Dieu étaient tous ici aujourd'hui, ils parleraient exactement le même langage biblique que nous parlons aujourd'hui. Dans leur temps, c'était le commencement. Dans leur âge, c'était la percée. C'était pas encore la perfection, la fin. C'était la grande chose qui pouvait arriver autrefois dans leur âge, que la justification par la foi soit replacée sur le chandelier. Et que Luther et aussi les autres réformateurs, n'est-ce pas, aient découvert l'Antichrist et soient sortis de ce système. C'était déjà quelque chose de grand. Mais Dieu n'est pas resté à ça. C'était le premier pas. Et c'est ainsi que ça continuait de clarté en clarté et de vérité en vérité. Déjà, autrefois déjà, il y avait eu en fait des hommes déjà qui, comme un Zwingfeld, qui avait apparu et qui disait, si on met de l'ordre, alors on doit le faire entièrement. Et il a annoncé même que le baptême biblique au nom de Jésus-Christ, déjà autrefois, il avait déjà annoncé le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême d'eau. À Genève, l'Espagnol, Selvietius a apparu. Et il a annoncé, il a prêché l'unité de Dieu comme cela est écrit dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait à Genève perdre sa vie avec l'accord des réformateurs. Au moins, les réformateurs n'ont rien dit. Ils sont restés silencieux. À chaque fois, il y a une voix qui s'est faite entendre. qui s'est élevé jusqu'à Jean Hus qui a été brûlé sur le bûcher à Constance. Mais ensuite, le temps vint où personne ne pouvait retenir ce que Dieu, dans son plan, avait décidé. Et c'est ainsi que nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Reconnaissants de ce que nous avons, par la grâce de Dieu, pu vivre ce développement spirituel et que nous pouvions dire amen à cela. Imaginez-vous si terrestrement nous étions restés et en arrière et que je serais encore en train de me déplacer avec une charrue et deux chevaux attelés. Les gens disant aujourd'hui, mais ô homme de Dieu, qui es-tu? As-tu manqué le temps ou bien la liaison au temps? On viendrait me chercher sur la rue parce que les gens comprendraient que j'ai perdu la tête et que je vis dans des siècles passés. Aujourd'hui, on se déplace en voiture, on se déplace en avion. Le temps avance. Terrestrement, nous avons tous suivi les siècles. Nous sommes appropriés les différents développements. Et quand pratiquement je pense à mes amis de l'URSS, de l'Union soviétique, ou bien alors de la DDR, la République démocratique de l'Allemagne, ou bien alors aux pays de l'Est, quand ils viennent ici, à l'Ouest, en Europe, et ils regardent autour d'eux et ils disent, oh, nous n'osions même pas rêver de ces choses. Ici, vous avez comme un paradis et là-bas, nous avons ce que nous avons et on voit la différence. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais passer ces exemples terrestres. Relever quelque chose et de manière très claire, il y a des pays qui sont restés en arrière. Je m'excuse particulièrement, vous, mes bien-aimés de la République démocratique de l'Allemagne, mais j'en suis devenu conscient alors que de la capitale de la République démocratique de l'Allemagne, donc de la DDR, je suis passé en Pologne. Je suis allé en Pologne et voilà, durant toutes ces années après la Deuxième Guerre mondiale, ce haut système n'a pas réussi à construire le deuxième tronçon de l'autoroute. Les ponts sont construits pour deux voies, faits pour deux voies, mais le pont fini n'a été conçu que pour une seule voie. Aujourd'hui encore, cette voie est terminée, une voie est terminée, et sur le second tronçon poussent des arbres et toutes sortes de choses. Les ponts sont finis, mais la route n'a pas été construite depuis toutes ces années. Seulement un seul tronçon. Je pensais en moi-même. Quelle différence entre deux Allemagnes qui sont en fait un seul peuple. Là-bas, un peu resté en arrière à l'est et ici à l'ouest, de la frontière de la Danemark jusqu'à la frontière de l'Autriche ou bien de la Suisse, on peut rouler sur l'autoroute sans stop, sans feu rouge. On peut rouler. Et là-bas, justement, ce n'est pas le cas. On ne peut pas rouler ainsi. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Vu spirituellement, c'est la même chose. Beaucoup d'hommes sont restés en arrière. Pas seulement des peuples. Mais maintenant, je vous pose la question. Qui est resté en arrière? Ceux qui, là où il y a de la dictature, là où on ne peut pas être libre, là, on est resté en arrière. Ils sont restés en arrière. Laissez-moi aussi ramener ça dans le domaine spirituel. Là où Dieu, selon sa parole, peut librement parmi son peuple faire ce qu'il veut. C'est là qu'on peut pas rester qu'on ne reste pas en arrière et qu'on ne fait pas marche arrière. Mais là, on va de l'avant. Et ça aussi, spirituellement, on doit voir ça de la même manière, spirituellement. Dieu, le Seigneur, il a donné à son peuple d'aller de l'avant. Et nous avons la grâce de voir cet élan spirituel dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons, avec le Seigneur, aller de l'avant. Si nous voulons parler maintenant du baptême d'eau biblique, nous ne blessons personne en le faisant. Mais nous voulons malgré tout pouvoir dire la vérité. sur ce sujet. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Je peux vous le lire dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 5. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et maintenant, nous venons tout de suite à la pratique du baptême, c'est-à-dire au commencement des actes des apôtres. Ici, il est écrit dans le deuxième chapitre, à partir du verset 38, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au verset 41, il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le baptême, c'est le baptême. L'aspersion des nouveaux-nés, des nourrissons, c'est une aspersion de nouveaux-nés, de nourrissons, et ça n'a rien à voir avec Dieu et sa parole. Ça n'a rien à voir. Et ça, on doit pouvoir le prononcer une fois. Dans Marc, le chapitre 16, le Seigneur a donné l'ordre missionnaire et heureux celui qui peut croire ce qui est écrit ici. Marc, chapitre 16, ici nous lisons à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Avez-vous lu avec nous? Celui qui croira et qui sera baptisé. Selon Romains chapitre 10, la foi vient de la prédication. Donc, il faut qu'il soit prêché, la bonne nouvelle soit prêchée et que la foi vienne de la prédication. Et c'est cette foi qui conduit les hommes à dans l'obéissance, se laisser baptiser. Romains, le chapitre 10, ici il est écrit, Romains chapitre 10, verset 8. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? Donc, les Écritures. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc Jésus en tant que le Seigneur, en allemand, Jésus en tant que comme le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'annonce de l'Évangile est la condition pour une foi biblique. Et cet homme, duquel nous avons presque le plus de cantiques dans le livre de cantiques dans lequel nous chantons, cet homme qui, dans le changement du siècle, d'une manière particulière, a été utilisé par Dieu, Johannes Paul, donc en français Jean-Paul, sur son lit de mort, il a fait une confession et il a dit, je le regrette. D'avoir refusé de me laisser baptiser bibliquement. Un homme qui a élevé haut la sanctification, peut-être plus haut que John Wesley, l'a élevé. Un homme qui pouvait dire, il a même donné l'année et il écrit dans son témoignage que il était entièrement sanctifié et que ni en pensée, ni en parole, ni en acte, il a succombé durant plusieurs années, qu'il a vécu une vie de triomphe et de victoire, à tel point que les frères de l'Alliance appelés de grâce lui ont dit, c'est impossible, cela est impossible. Et cet homme, après beaucoup d'années, a rendu témoignage de ne pas avoir péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Et quoi? Qu'il était si saint, pur, peut-être même devant Dieu dans son cœur. Et malgré tout, il n'a pas appris le ABC de la foi, le ABC d'un croyant. Est-ce que Frère Branham ne l'a pas dit clairement? On peut être sauvé sans être sanctifié. On peut être sanctifié sans être rempli du Saint-Esprit. Mais si tout cela trouve sa place et se déroule de manière harmonieuse et trouve sa place réellement dans notre vie de croyant, alors nous avons ce que Dieu a voulu pour nous dans sa pleine mesure. Donc, ce ne sont pas des modèles terrestres qui nous sont présentés devant nos yeux, des hommes que Dieu utilise et que Dieu a béni. Pensons à beaucoup qui vraiment furent bénis de Dieu. Mais le temps n'était pas encore là. Ils vivaient avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Mais les jours de la restauration de toutes choses et du rétablissement de toutes choses et de la visitation divine n'étaient pas encore venus. La dernière génération, l'âge prophétique, l'époque prophétique pour l'Église n'était pas encore là. Donc, ils servaient le Seigneur selon la lumière et la clarté qu'ils avaient. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Nous ne vivons pas dans les jours de la Réformation ou alors dans les âges qui ont suivi ou bien alors les siècles qui ont suivi, mais nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce où l'Église du Dieu vivant revient dans l'état originel, doit revenir dans l'état originel dans où l'enseignement des apôtres, où l'annonce de la parole de Dieu et la pratique de la parole de Dieu maintenant doit seul être valable comme c'était le cas dans l'Église primitive. Ça, c'est justement la différence. Nous ne jugeons pas ces hommes. Non. Et imputons pas cela aux hommes. Mais maintenant, le Seigneur laisse dire à tous que le temps de l'ignorance appartient au passé et que ce jour dans lequel nous sommes est le temps que Dieu a fait. C'est le temps que Dieu a fait pour nous accorder toute la clarté sur tous les sujets bibliques par la grâce de Dieu. Et pour cela, aussi cette question ici est déjà, répondue. La foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul et unique verset biblique qui nous dirait que des enfants furent apportés au Seigneur et qu'il les a baptisés. Non, ils ont été apportés au Seigneur pour qu'il puisse les bénir, pas les baptiser. Et la même chose, nous le faisons encore aujourd'hui. Nous apportons nos enfants au Seigneur pour qu'il puisse les bénir. Mais ensuite, il faut que la parole leur soit adressée, leur soit annoncée. Ils doivent personnellement prendre leur décision pour Jésus-Christ et aussi accepter leur sauveur personnel. Et suivre et prendre le pas du baptême d'eau. Comme nous l'avons lu, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. La Bible ne parle pas de parrain. Oh, c'est parfois triste. J'espère seulement que des gens ne se sentent pas adressés personnellement. Quand nous mentionnons ces choses, c'est avec une douleur profonde intérieure dans notre âme. Luther a écrit aussi autrefois un livre sur la fin de l'Église dans la captivité babylonienne. Si nous croyons que la fin de la captivité babylonienne est venue, alors nous voulons croire que tous ceux qui maintenant écoutent l'appel de Dieu, entendent l'appel de Dieu, sortent de cette captivité babylonienne et se placent sur le sol de la parole de Dieu. Car le Seigneur ne va pas changer sa parole. Elle reste dans sa forme et dans ce qu'il a dit. Dans les Actes des Apôtres, nous avons tout un nombre d'enseignements ou bien alors d'exposés qui nous sont à notre disposition. Au chapitre 19, à partir du verset 5, nous lisons l'histoire de Paul à Éphèse, alors que là-bas il rencontrait ces personnes qui avaient été baptisées auparavant par le baptême de Jean-Baptiste, du baptême de Jean-Baptiste. Je lis ici dans Actes apôtres 19, versets 5 et 6. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ces hommes avaient été baptisés par cette même personne qu'avait baptisé Jésus-Christ notre Sauveur, le même qu'a baptisé Jésus-Christ au Jourdain. Le même homme avait baptisé ses 12 disciples. Alors nous dirions tous, mais bien-aimé Paul, moi je veux te laisser savoir que nous avions été déjà là et là et là baptisés par le même homme qu'a baptisé le Seigneur lui-même. Paul, est-ce que tu veux ici dire que ce baptême n'est pas valable? Ce baptême a été accepté par le Seigneur. Est-ce qu'on ne doit pas aussi l'accepter? Est-ce qu'il ne doit pas être, aussi valable pour nous? Pas d'argument, rien du tout de tout ça. Paul a annoncé le message du salut, le dessein du salut de notre Dieu. Et il disait, Jean a du baptême de repentance, Dieu a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Mais maintenant, vous devez être baptisé pour le pardon de vos péchés. Pas que le pardon des péchés, nous le recevons dans le baptême d'eau. Non, ça, il y en a qui l'ont mal compris. Le pardon des péchés a eu lieu par le sang de l'agneau qui, sur la croix à Golgotha, fut répandu. Mais en tant que confirmation de la foi que nous avons accepté le pardon de nos péchés, alors nous nous laissons baptiser comme pas d'obéissance et de foi que nous avons la grâce de faire devant la face de Dieu. Il faut que cela soit clair. Pas le pardon des péchés par le baptême d'eau, mais le pardon des péchés par le sang répandu de l'agneau. Et tous ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, qui l'ont expérimenté, qui ont cette conviction, ils se laissent baptiser en tant que preuve que leurs péchés sont pardonnés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cela est clair? L'amen n'était pas assez fort. La prochaine fois, je vais vous prendre avec vous en Afrique, mais seulement si vous payez vous-même votre billet. Mais bien aimé, pour moi, tout cela, ce sont des vérités bibliques précieuses. Dans l'eau, il n'y a pas de puissance pour pardonner. La puissance du pardon est dans le sang. Dans le sang était la vie de Dieu. Et cette vie divine a été répandue pour nous, pour que nous recevions la vie de Dieu lui-même. Mais l'obéissance est nécessaire ici, car la désobéissance est comme le péché de la sorcellerie. Et là, nous revenons à ce point qui est décrit dans Apocalypse. Et ce grand conseil mondial des églises qui, avec sa coupe de fornication, a saoulé le monde entier. Même les rois et tous ont bu de cette coupe. Et ils ont perdu le sens et ne retrouvent plus le chemin de Dieu. Celui qui veut peut continuer à boire du vin de la coupe de Rome, mais laissez alors la coupe du salut tranquille, ne la touchez pas. Nous ne pouvons pas boire en même temps de la coupe du salut et d'un autre côté en même temps boire de nouveau la coupe de Rome et encore consommer cette coupe. Non, vous, mon peuple, sortez de milieu d'elle, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, je vous recevrai, accueillerai, et vous me serez des fils et des filles, et je serai votre Dieu. Si quelqu'un pense que c'est du fanatique, c'est du fanatisme. Bon, donc, ça veut dire que Dieu est fanatique, parce que ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Je ne veux même pas continuer à parler de ce sujet. C'est assez clair. Tout ce qui a été dit est suffisant. Ça a été assez dit, c'est assez clair. Et il y a assez de choses qui ont été écrites sur ce sujet. Et celui qu'on doit encore supplier de faire ce que le Seigneur nous ordonne de faire, alors je ne sais pas si ça veut dire que le fruit est déjà mûr. Ça veut dire que nous devons laisser les choses à Dieu jusqu'à que chacun individuellement se laisse convaincre par Dieu et par sa parole et par son esprit. Mais si vous avez encore un combat intérieur et vous êtes dans des réflexions encore, alors nous voulons, avec conseil et secours divin et tact, est à votre disposition pour que vous soyez appelés à sortir et que vous sortiez réellement de tout ce qui n'est pas biblique et pour que vous puissiez vous laisser purifier dans la parole de la vérité, vous laisser sanctifier dans la parole de la vérité. Que en cet endroit, nous puissions encore dire à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement, par immersion, une seule fois, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, ils puissent reconnaître que c'est nécessaire et que en eux, cela s'accomplisse. Ce que nous avons lu dans Actes apôtres 2, au verset 41. Tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, se laissèrent baptiser. Celui qui n'accepte pas n'a pas non plus besoin de se laisser baptiser. Il peut alors continuer à marcher dans ses propres voies. Mais celui qui, dans la crainte de Dieu, accepte la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu va le convaincre et il se laissera baptiser bibliquement. La pratique de baptême, le baptême, nous le pratiquons ici, comme les apôtres l'ont fait, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous baptisons ici, car ça, c'est le nom qui est en relation avec notre rédemption. Ça, c'est le nom de l'alliance de Dieu, du Seigneur Dieu, de l'éternel Dieu, dans le Nouveau Testament, tel que Yahvé est le nom de l'alliance du Seigneur Dieu, dans l'Ancien Testament était le nom de l'Agneau de l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament, et que Jésus a dit, baptisez-les dans le nom, pas dans les titres. Je pourrais me donner beaucoup de titres. Je peux être père, je peux être fils, je peux être prédicateur, je peux être docteur, je peux être évangéliste, je peux être beaucoup de choses. Mais mon nom est déjà le nom de mon père et le nom de mon grand-père et de mon aïeul. Franck, Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai révélé ton nom. Garde-les dans ton nom, dans le nom que tu m'as donné. Père, que ton nom soit sanctifié. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Vous vous étonnerez. Même tous ceux qui sont sortis de Rome ont conservé dans leur poche la vieille formule de baptême. Je ne vais pas oublier, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines seulement, du vol d'Abidjan de la Côte d'Ivoire à Lagos. Nous étions assis avec 3 personnes dans l'avion, donc au même rang. Et j'étais donc assis au couloir, et celui qui devait s'asseoir à côté de moi, je ne savais pas qui allait venir. Et il y avait donc une femme et un homme qui étaient venus. L'homme était un diplomate de l'ONU et parlait bien l'anglais du Sénégal. Il venait du Sénégal et la femme était de Lagos. Et j'ai sorti ma Bible et j'ai commencé à la lire. Et subitement, elle m'a demandé, es-tu chrétien? J'ai dit oui, bien sûr. Et elle disait, moi aussi. Et alors, ça a même continué. J'ai demandé, mais oui, mais ça me réjouit. J'ai dit, mais ça me réjouit. Elle a dit, oui, j'appartiens à l'église des chérubins et des séraphins. D'abord, cela m'a réveillé. Et j'ai demandé, mais un moment, sœur, j'ai déjà été plusieurs fois à Lagos. J'ai vu les prophètes habillés en blanc, au bord de la mer, marcher, etc. Il s'échange du matin jusqu'au soir. Et j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu même la Nouvelle Jérusalem, plusieurs églises qui s'appellent avec ces différents noms. Et mais ça, c'est nouveau pour moi. Elle m'a dit, mais vous avez entendu jamais parler de nos prophètes et des 12 apôtres et qui sont les 12 anges. J'ai dit, sœur, non, jamais. Mais ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, alors nous avons commencé à parler. Là, ça a vraiment commencé. Je lui ai dit, mes sœurs, il y a une chose que je voudrais te demander. Dis-moi, comment est-ce que vous baptisez? Elle dit, oh, nous baptisons trois fois. Au nom du Père, une fois. Et nous ressortons la personne. Ensuite, au nom du Fils, et nous ressortons la personne. Je dis, mais, et ça, c'est l'église? Des chérubins et des séraphins? Oui, ça, c'est l'église. Je dis, mais ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Et alors, nous avons bien sûr commencé à parler sérieusement. Et là, vous voyez, ils sont tous sortis de Rome. Mais ils ont succombé à des faux prophètes qui les ont reconduits dans une prison et les tiennent en otage et leur mentent encore jusqu'à aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit loué pour les vérités de la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est un point que peut-être nous ne pouvons pas assez estimer. Comme cette vérité précieuse de la parole de Dieu devrait être précieuse pour nous. Oui ou non? Et qu'est-ce que nous faisons avec cela? Comme aujourd'hui, au Benkassé, c'était au milieu de la prédication. Il y a un frère qui baillait. Ça, on peut le faire le matin tout quand on se lève. Mais pas dans la prédication. Quand j'écoutais la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu. Alors tout disparaît. Ici, c'est Dieu qui parle avec nous. Et il veut nous laisser savoir que tous ceux qui écoutent ma voix doivent la recevoir, doivent recevoir dans leur cœur ce qu'il leur est dit. Vous savez combien de fois le temps durera encore? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous savons? Est-ce qu'une telle occasion nous sera encore accordée d'écouter la parole de Dieu? Je ne sais pas. J'espère que nous aurons encore l'occasion, mais le temps, une fois, sera fini, passera. Il a commencé. Et il aura une fin. Aujourd'hui, tous doivent comprendre que il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi, et vraiment qu'un seul baptême qui est valable. C'est-à-dire le baptême de ceux qui, par la foi au Seigneur, leur et qui ont accepté leur salut accompli. C'est ça la relation. Un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. Ces trois choses avons ensemble. Pourquoi est-ce que nous devrions avoir honte du nom du Seigneur qui nous signifie tant? C'est, il n'y a pas d'autre nom qui serait donné aux hommes sous le ciel pour être sauvés en dehors du nom de Jésus. Pour que tous puissent être sauvés. Tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Loué soit le nom du Seigneur. Que cela suffise, et nous demandons à tous, ceux qui peut-être sont dans le doute encore, qu'ils puissent venir à un entretien et pour qu'on puisse prier pour eux, pour que personne reste. Mais si vous avez décidé malgré tout de réfléchir encore, nous ne pouvons rien faire. Nous prions que le Seigneur est, nous croyons que le Seigneur aura son chemin avec vous. Nous prions pour vous. Levons-nous ensemble pour la prière. Peut-être que nous chantons ce cœur, tel que je suis, sans rien de moi. Agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, je viens. Puis-je demander que tous ceux qui veulent se laisser baptiser viennent maintenant devant. Nous chantons ce chœur encore une fois. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Père céleste, nous te remercions de ce que tu appelles encore à toi des hommes, des gens dans ces derniers temps, dans ces dernières heures. Tu es celui qui cherche les tiens et tu les trouves et tu les appelles. Ils entendent ta voix et ils viennent à toi, ils peuvent te suivre. Seigneur, je te demande, accorde ta grâce, particulièrement à ces jeunes gens, qu'ils puissent marcher avec toi dans ces derniers temps et dans ce temps difficile. Tu leur accorderas ta grâce. Tu seras avec eux, Seigneur. C'est ma prière pour eux, Seigneur, et pour tous ceux qui aujourd'hui osent le pas du baptême. Tu les béniras et tu te révéleras à eux en tant que le même que tu étais depuis dès le commencement. À ton nom soit pour cela l'honneur et la louange et l'adoration. Accorde maintenant ta grâce, Seigneur. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.